Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Jean-Pierre Siméon, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir pour parler ensemble de poésie. Je donne quelques éléments pour vous présenter. Vous êtes agrégé de lettres modernes. Vous avez succédé en 2018 à André Velter à la direction de la collection Poésie Gallimard. Vous êtes l'auteur de nombreux livres de poésie, des essais, des pièces de théâtre, des romans. Vous avez eu le prix Guillaume Apollinaire en 1994, et vous êtes président du jury du prix Guillaume Apollinaire depuis 2014. En 2022, vous avez eu le prix prestigieux, le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit livre qui sort. C'est un collectif dont vous avez écrit la partie théorique. Le titre est « La poésie à vivre, paroles de poète ». Et c'est en collection Folio. Et il y a édition de Jean-Pierre Siméon. Alors, je me suis posé la question, édition Gallimard, ou avez-vous vos propres éditions?
Non, c'est une formule pour m'attribuer la responsabilité de ce livre. C'est la directrice de la collection, Marie Garnier, qui avait publié aussi le petit éloge de la poésie, qui a connu un grand succès, vous savez. Mm-hmm. Et donc, elle m'a proposé de continuer en quelque sorte ce chemin que j'avais initié d'ailleurs avec la poésie Sauvera le Monde, avec cette idée de texte qui illustre en quelque sorte la position, le parti pris que j'ai défini dans les précédents essais. Voilà. Donc elle m'a dit carte blanche, mais je l'ai associé aussi au choix des textes parce que c'est quelqu'un de très passionné et concerné par la poésie. Ça permet d'avoir un regard un peu plus ouvert. Et donc oui, édition, c'est une idée de cette directrice de collection qui a voulu marquer que j'étais le maître d'œuvre, disons, de cette sorte d'anthologie.
Très bien. Alors, comment avez-vous pu faire le casting de ces auteurs? Il y a des auteurs, évidemment, qui manquent. En amont, vous avez eu une idée de ce livre qui a présidé au choix des auteurs que vous citez.
Oui, alors, comme vous le dites, forcément, c'est un petit livre. Il y a beaucoup, beaucoup de manques parce que la plupart des grands auteurs se sont exprimés sur la poésie et beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ont fait sur le propos que je tiens, c'est-à-dire la poésie à vivre. Alors, il fallait faire un choix, évidemment, et évidemment, c'est frustrant. Je relisais du René Guy Cadoux, de ses réflexions qui sont sous le titre, je crois, « Usage interne » ou quelque chose comme ça. Et je me dis, tiens, j'aurais pu prendre aussi quelques pages de Cadoux. Alors, la question pour moi, c'est de trouver des pages pertinentes qui traitent de façon différente cette question de la poésie en amont du poème, en quelque sorte, ou source du poème, ou dont le poème est l'écho ou l'illustration, c'est-à-dire ce qu'il y a en avant, c'est comment on vit poétiquement. Et donc, la question, elle était de chercher très largement dans le répertoire poétique, à partir d'auteurs connus qui fassent repère pour le public, bien sûr Rimbaud par exemple, mais aussi des textes et d'auteurs moins connus ou moins attendus, comme Jo Bousquet par exemple, j'ai pris une très belle lettre où il associe l'amour et la poésie, comme d'autres l'ont fait avant lui, Éluard, etc. Éluard qui évidemment est présent comme Aragon. Alors après, oui, je cite même, vous avez vu, je crois, dans la préface ou dans la quatrième couverture, je ne sais plus, j'évoque les grands noms qui n'y sont pas. Vous savez, il n'y a pas Hölderlin, il n'y a pas Rilke, enfin des gens comme ça qui ont dit au moins des choses aussi importantes que ceux que je prends, mais voilà, on est un peu aussi contraint, vous savez, par des questions bêtement éditoriales, c'est-à-dire on choisit des auteurs non pas seulement pour la pertinence, mais parce qu'ils sont sous le copyright de Gallimard, parce qu'il n'y a pas de traduction à payer, il faut trouver la bonne traduction. Voilà, tout ça fait que ça restreint un peu le choix, malgré moi, mais je crois que je peux assumer tous les choix qui sont faits. Je crois que ce sont tous des auteurs tellement reconnus, estimés, qu'il n'y aura pas d'incongruité, en tout cas parmi les auteurs présents.
Alors, le titre, « La poésie à vivre ». Poésie à vivre, à lire, à écrire, à réciter. Dites-nous un petit peu les variations autour, comme des satellites autour de ce mot poésie. Lecture, écriture, édition aussi, le choix de l'éditeur. Alors, le titre, La poésie à vivre.
Oui, c'est parce que justement, je ne cesse de dire que la poésie est d'abord un choix existentiel, un choix éthique. Bien sûr, il s'agit d'écrire des poèmes, et si on en écrit, de les partager par la lecture, par l'édition, etc. Aujourd'hui, par bonheur, il y a un vrai regain d'intérêt pour la poésie, comme je l'avais laissé entendre il y a longtemps déjà, que j'étais sûr que ça reviendrait. Mais il ne faut jamais oublier que la poésie est d'abord une position morale, on va dire une position éthique, dans l'existence. C'est un choix de vie, c'est un choix d'un type de relation particulier, j'allais dire incandescent, effervescent, amoureux presque, avec l'environnement, avec l'autre, qui soit l'autre visage ou l'autre paysage. La poésie, c'est d'abord ce choix-là fondamentalement. Et il s'exprime, ce choix, je crois, dans le poème, et dans toutes les formes, d'ailleurs, autre que le poème écrit, puisqu'on sait bien que l'art, quand il est fidèle à son enjeu, il a une dimension poétique essentielle, substantielle, je pourrais dire. Tout art aussi est la manifestation de ce regard particulier sur le monde, de cette compréhension de la réalité autre que celle à laquelle nous sommes soumis tous les jours, qui est une compréhension ou un usage, on va dire, du réel, utilitariste, pragmatique, gouverné par de mauvaises, à mon avis, de mauvaises valeurs, la rentabilité, la productivité, etc., etc. Donc la poésie, depuis toujours, incarne une autre position, une autre façon de vivre, une autre façon, pas seulement d'écrire, mais on va dire une autre façon d'écrire que montre le poème, elle ne se justifie que parce qu'il y a une autre façon de voir et de comprendre le monde. Sinon, pourquoi utiliser cette autre langue? Donc voilà, quand je dis la poésie à vivre, oui, c'est presque une formule manifeste. C'est-à-dire la poésie est d'abord à vivre. Et vous savez, je viens d'écrire aussi un autre essai qui est paru il y a 3 mois, qui s'intitule « La flaque qui brille au retrait de la mer ». Pour moi, ce titre est la définition du poème, « La flaque qui brille au retrait de la mer », chez un petit éditeur, Projectile. Et c'est encore une réflexion sur la poésie et sur le thème « Comment on devient poète ?». Et forcément, en posant la question « Comment on devient poète ?», je pose cette question de « Qu'est-ce que poète ?». Et le poète n'est pas celui seulement qui écrit des poèmes. Il est d'abord celui qui vit en poète. Voilà ce que je crois. Et j'ai écrit d'ailleurs un aphorisme dans ce petit essai dont je vous parle, un aphorisme qui est ceci: mieux vaut un poète sans poème qu'un poème sans poète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une petite provocation, mais je crois qu'il y a des gens qui n'écrivent jamais de poèmes et qui vivent intensément, poétiquement le monde. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent des poèmes et qui sont plutôt dans la littérature et dans un peu le leurre que peut supposer ce travail littéraire et qui omettent en fait de vivre en poète. Vous voyez ?
Oui, alors revenir sur ce mot, puisque le titre, il est dans le titre, la poésie à vivre. Quand vit-on le plus ? Est-ce que c'est lorsque l'on sait que l'on va bientôt mourir ? Et donc le point d'incandescence, le point le plus aigu, le plus focus de l'intensité du sentiment du vécu. Est-ce que c'est ce moment-là ? Ça pourrait être ce moment-là ?
Oui, en fait, ce que vous dites justifie par exemple la présence dans le choix des textes d'un poème de Charlotte Delbault, qui est une injonction à vivre intensément. Et ce poème, elle l'écrit en sortant d'Auschwitz. Vous savez, c'est « Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants ». En fait, elle dit « Mais profitez de votre vie, usez de votre vie, faites-en quelque chose, apprenez une pas, une danse, apprenez à chanter et à rire. » Elle dit « Faites quelque chose, vivez, quoi. » Plutôt que de gaspiller cette chance inouïe que d'autres n'ont pas eue, qui sont morts autour d'elle à Auschwitz en si grand nombre, vous voyez. Et oui, je crois qu'effectivement, on a la vraie compréhension, la vraie perception du prix de la vie, de sa valeur inégalable, de la merveille qu'elle peut être, que si on sait au même moment, ou peut-être préalablement, avec une lucidité extrême, qu'on va mourir. Ce que Bonnefoy a dit souvent, Yves Bonnefoy, il parlait de la finitude et du sentiment de finitude. Si on a cette lucidité-là, ce que je crois ont tous les poètes, c'est-à-dire cette lucidité intransigeante devant la vie. La vie, elle est une tragédie dans la mesure où la mort est annoncée. C'est bien la définition de la tragédie, que je sache. Donc la mort est annoncée dès la naissance. Donc nous vivons au fond une tragédie, mais c'est la claire compréhension donc de la brièveté de la vie, de cette finitude qui fait que chaque instant devrait être une jouissance ou le vœu d'une jouissance. Chaque instant devrait porter une valeur extrême. Et même le fait que le bonheur, la joie qui sont les moments où on vit pleinement poétiquement, à mon avis, c'est le fait qu'ils soient si fragiles, si éphémères, eh bien, ça devrait... C'est lié aussi à cette lucidité. C'est-à-dire que on sait bien que la vie n'est pas faite que de joie, de bonheur, d'étreintes du réel heureuse, etc. La vie est faite des difficultés, des contradictions de l'existence, etc. Mais vivre en poète, c'est à la fois être lucide sur le tragique de l'existence et ne pas renoncer. Je le crois, je l'écris quelque part. C'est ne pas renoncer, ne pas se soumettre comme à cette fatalité du malheur, parce que le malheur est inévitable. Mais c'est sans cesse et c'est un effort. C'est une conquête, on veut dire. C'est un vœu, un désir profond, sans cesse retrouver les arguments de la vie et de la joie. Sans cesse démentir, en quelque sorte, la mort qui nous guette, la souffrance, la perte, l'exil, ce sont des morts successives et plus que symboliques, réelles dans nos existences. Sans cesse dépasser ça par une sorte de regard aussi exigeant et lucide sur les beautés et l'émerveillement de la vie. Alors c'est un combat permanent, entre les raisons de la joie et de l'espérance, on va dire, et puis les arguments implacables du désespoir, de la défaite, de la difficulté. Voilà pourquoi la poésie n'est pas une sorte d'utopie charmante, et c'est quelque chose d'exigeant et qui ne triche pas, qui ne ment pas.
Oui, alors à la lumière de ce que vous venez de dire, quels sont pour vous les poètes qui ont vécu la poésie ? Est-ce qu'on peut citer Rimbaud, Artaud, Nerval ?
Oui, on pourrait en citer beaucoup, vous avez raison. Mais Christian Bobin, par exemple, qui nous a quittés hélas si tôt, qui s'était retiré, qui a fui un peu le monde des vanités littéraires pour vivre intensément dans la relation à l'autre, en écrivant des lettres à chacun, dans une sorte de relation privilégiée. Mais ça peut être aussi Charles Julliez, je parle de poète d'aujourd'hui, ou André Velter, qui vit poétiquement en voyageant, en traversant le monde, et sa poésie en est l'écho sans cesse, en allant à la rencontre de l'inconnu, de la vaste montagne de l'Himalaya, ou au contraire de l'inconnu, enfin pas au contraire, mais parallèlement de l'inconnu de l'autre qui est sur d'autres terres, qui vit autrement, qui pense autrement. Donc moi je crois que beaucoup, beaucoup de poètes, par essence, sont des gens qui font des choix dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont ce goût de l'ailleurs, de la découverte, de l'inconnu. Donc on peut citer ceux que j'ai mis dans mon dans ma petite anthologie, là, évidemment, il y a, on l'a dit, Aragon aussi, qui en parle, lui, comme de l'amour, comme Éluard, d'ailleurs, l'amour étant le lieu d'intensification d'existence, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Et que c'est là qu'on vit au plus près de la poésie. Il dit, c'est ça que j'appelle poésie, dit-il. Et c'est aussi tous ces mille poètes qui ont... Vous parliez de Nerval, évidemment, vous parliez d'Artaud, mais qui ont poussé cette exigence de, on va dire, de l'étreinte du réel jusqu'au maximum, qui veulent vivre tellement tout le temps sans tricherie, tellement si intensément au sommet d'eux-mêmes, au sommet de ce que la vie demande, que parfois ils s'y brûlent, n'est-ce pas ? C'est le cas d'Antonin Artaud ou de Nerval. Et c'est le cas de pas mal de poètes, effectivement, dont on sait qu'ils ont eu des destins tragiques, mais c'est parce qu'ils sont le plus fidèles possible à leur désir foncier premier, vous voyez. Je crois ça. Donc des poètes qui ont incarné ça, bien sûr, la question de Rimbaud est une question haute, puisqu'on sait son départ. Moi, je suis de ceux qui pensent que son départ est cohérent avec son écriture, car son écriture est la perpétuelle recherche d'un ailleurs dans l'ici, la perpétuelle demande d'une vie intense, d'une vie débarrassée de tous ses mensonges et de tous ses leurs. Il y a une insolence là-dedans, et donc il fait de façon foudroyante, il exprime ça de façon foudroyante dans ses poèmes en quelques années, et ensuite il part, il est à la recherche de l'inconnu, comme il le souhaitait. Voilà, c'est le geste qui m'importe. Ce geste est une volonté de se jeter dans l'infini rugueux du réel. Il parlait du réel rugueux, et je crois que ça, c'est une position effectivement poétique. Elle n'est pas, comme on pourrait le croire, seulement contemplative. Parce qu'une fois que j'étais l'autre jour, je crois, à Prague, et je parlais à des étudiants, et je définissais un état de poésie, celui que vous me demandiez d'exposer, quotidien pour chacun, on peut tous être en état de poésie. Et il me disait, mais la façon dont j'en parlais, il me disait, vous êtes contemplatif, vous parlez de contemplation, parce que je disais, on peut vivre intensément l'instant en oubliant tout et en se mettant en silence, dans l'arrêt, en regardant une branche, un ciel, un visage. Alors il dit, c'est de la contemplation. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi effectivement être dans le mouvement et dans un mouvement vers plus, vers plus loin, vers même ce que Henri Michaud appelait le lointain intérieur, qui est une recherche, une quête. Donc, vous voyez, il y a mille façons de vivre en état de poésie. Je voudrais pas dire que c'est comme ça. Moi, je suis pas un gourou, je donne pas de recettes. Je dis pas, voilà, vous allez en 10 points, vous allez apprendre à vivre en poète. Ça n'existe pas, ça. Chacun invente sa façon de vivre poétiquement. Ce que je dis, c'est que nous avons tous en nous un état latent de poésie, si je puis dire. Nous pouvons tous rejoindre cet état de poésie qui est foncièrement humain, c'est-à-dire cet état d'ouverture, d'attention, d'appétit du monde, d'appétit du réel, et qui est prêt à l'étonnement comme à l'émerveillement, et avec le risque de la perte et de l'effroi, hein, aussi, évidemment. Mais il n'y a pas de vie intense sans risque. C'est aussi une façon de parler de l'état de poésie. Vous voyez ? Donc, moi, ce que je voudrais dire à travers les textes que je propose, proposer aux gens, c'est de réfléchir à ça. Qu'est-ce que propose la poésie au-delà du texte qui nous touche, qui nous émeut, très en amont, en dessous du poème ? À quoi il veut nous conduire, le poème, au fond ? Pourquoi ? Qu'est-ce que signifie l'émotion qu'on éprouve dans le poème ? Et moi, je dis, c'est l'émotion que nous éprouvons parce que nous sentons intuitivement que nous rejoignons la plus juste part de nous-mêmes, la part poétique de nous-mêmes. Nous rejoignons notre état poétique.
Alors je reviens par rapport à ce que vous avez dit concernant la contemplation. S'il n'y avait que contemplation, il n'y aurait pas écriture, parce que le poète contemple, il a un ressenti, il a une émotion, et il cherche comment trouver les mots miscibles avec cet influx nerveux qu'il a eu, de façon à le transmettre à l'autre. Donc contemplation, oui, mais recherche violente, précise en soi, pour trouver, pour convertir en éléments linguistiques, ou bien alors, vous avez parlé de poésie dans la peinture ou autre, convertir en éléments miscibles avec l'esprit de l'autre.
Oui, ce que vous dites, en faisant intervenir comme ça la question du langage, parce que effectivement, on peut vivre un état poétique seul. Je crois que c'est effectivement le cas, on peut le dire, d'abord de chacun d'entre nous à certains moments de notre existence, mais je crois surtout qu'on peut vivre, et que c'est là que c'est intéressant pour nous tous, collectivement, on peut vivre par l'autre l'état poétique. La question du langage que vous posez, c'est la question du partage de cet état de poésie. Parce qu'à partir du moment où on écrit, où on peint, où on danse, où on chante, on veut manifester d'une manière ou d'une autre pour l'autre. C'est pas pour soi-même qu'on le fait, n'est-ce pas? Presque toujours, on le fait en cherchant un interlocuteur, une oreille, un regard qui partage avec nous, et moi je crois beaucoup à cette idée de partage, qui partage avec nous cet état meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas? De meilleur de l'humain en général. D'ailleurs, c'est quand on arrive à communier ensemble dans un poème, dans une sonate, dans l'émerveillement d'une peinture, dans les grandes expositions, quand on est tous portés comme ça par ces événements poétiques, qu'il y a une sorte de fraternité immédiate et non dite, implicite, qui s'instaure. C'est-à-dire que je crois que ce que dit la poésie, ce que dit l'art, c'est justement ce point qui serait une sorte de point idéal de l'humain, où on se reconnaît, on s'entend, on se comprend dans un mystère commun, qui est fait de l'émerveillement et, je l'ai dit tout à l'heure, et d'un émerveillement menacé par la mort, quoi. Je crois que c'est très personnel, hein, ce que je dis là, mais au fond, je crois que tous les gestes artistiques, quels qu'ils soient, depuis l'aube des temps, ils sont un vœu de rencontre, un vœu de partage, un vœu de compréhension commune, de sortir de soi-même et de l'impasse que signifie, on va dire, la confrontation solitaire à l'énigme. Elle est terriblement désespérante, cette confrontation, si elle reste solitaire. Donc pourquoi le poète écrit ? Et pourquoi le peintre peint, etc. C'est simplement pour, à mon avis, c'est pour tendre la main. D'ailleurs, Paul Celan, le grand poète Paul Celan, disait « Il n'y a pas de différence de principe entre un poème et une poignée de main. » C'est bien un geste d'accueil et d'ouverture et d'appel. C'est un lieu de rencontre vrai, je crois, et qui passe les générations, les cultures, les choix divers, religieux, etc. La poésie, je l'ai écrite dans un essai précédent, c'est une sorte d'espéranto de l'âme universelle, quoi. Un espéranto de l'âme. C'est le langage commun à tous les êtres humains. Et c'est le langage qui tend vers ce point dont je parlais tout à l'heure.
Alors justement, en parlant de poésie, quel est le rôle de l'écriture sur le ressenti de l'âme qu'est la poésie ? Est-ce que cette écriture ne la trafique pas, cette impression intime que nous avons, violente, précise, arachnéenne ? Est-ce que cette traduction, puisque je ressens quelque chose, je veux le mettre dans une langue, dans des mots, et je veux l'objectiver, le montrer à quelqu'un d'autre, est-ce que cette écriture ne trafique pas le sentiment que j'ai eu ? Est-ce qu'elle ne fait pas changer de nature à ce sentiment que j'ai eu ? Et est-ce qu'elle ne le fait pas entrer dans un monde autre que le sien ? Donc traduction, translation dans un autre univers.
Oui, c'est un danger. C'est le danger de toute parole, au fond. En s'éloignant de la bouche et du cœur, elle perd le sens de son origine. Voyez, c'est le grand problème de la déperdition de la parole aujourd'hui. C'est une parole vide et une parole abondante, mais vide, parce qu'au fond, c'est une parole qui a perdu son incarnation, qui a perdu son anima, son souffle, sa proximité avec l'être qui l'a dit. Et donc, c'est une parole désincarnée et sans âme. Si elle n'a plus d'anima, elle n'a plus d'âme. Elle n'a plus de souffle, d'ailleurs. La parole qui court à travers le monde, aujourd'hui, c'est une parole essoufflée. Une parole qui est, du coup, comme elle a perdu ce rapport originel et premier avec l'être qui est incarné, qui est vivant, dont le cœur bat, elle perd ce lien avec ça, alors elle devient une parole abstraite. C'est la parole des technocrates, c'est la parole qui gouverne tout, qui est une parole dont on dit bien qu'elle perd la réalité, qu'elle est loin de nous, et qui en fait traduit le réel, elle, en fait, de traduction, elle traduit le réel en concept, en choses froides, en schémas, en catégories, etc. Évidemment que le réel n'est pas fait de schémas, de catégories, de dessins abstraits. Donc, je dis que ce qui est la meilleure objection à cette langue qui perd le réel et qui perd la réalité humaine, donc la langue qui domine aujourd'hui, la meilleure objection, c'est la poésie. Parce que la poésie, je reviens à votre question, c'est celle qui cherche à ne pas trafiquer, qui cherche à ne pas trahir, qui cherche, curieusement, et c'est le paradoxe, à rester langage, puisque c'est par le langage que l'on communique, mais sans perdre cet aveu peut-être fou, comme disait Aragon, c'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le terme, enfin bon, la question est quand même comment on arrive à sauver le langage de cette aporie dont je parlais, de sa perte du réel. Et donc les poètes sont ceux qui essaient de regarder vivant le langage, la parole, c'est-à-dire de garder la vie en elle. Et que donc quand on entend la parole du poème, si on est à ce point bouleversé et touché, c'est que c'est pas qu'on nous dit quelque chose, c'est qu'on entend une voix VOX qui parle, on entend un être qui nous parle, et on entend une expérience commune. Qui est, quand je dis c'est une expérience commune, et je pourrais exprès le mot expérience, ce que disait Rilke, que les poèmes ne sont pas des sentiments, ce sont des expériences, c'est simplement l'expérience de la vie, ce qu'on vit au concret des jours, au concret de nos instants. Voilà. Et la poésie ne perd pas ça. Et c'est pour ça qu'on est bouleversé quand on entend un poème. On n'en entend jamais, on n'entend que le langage perdu, le langage vide, et tout d'un coup on entend un poème et on entend un langage plein. Un langage qui vibre, on entend un langage dont le cœur bat, si je puis dire. C'est ce que j'appelle la parole, moi. Une vraie parole, c'est quoi? C'est une langue qui se sauve de ce que les linguistes décrivent. C'est une langue qui n'est plus réductible à ses abstractions, sa grammaire, sa syntaxe, etc. Mais une langue qui miraculeusement a préservé la part vivante. La part la plus vivante, la plus intime de notre vie. Et c'est ça qui fait la force de la poésie, je crois, plus que jamais aujourd'hui.
Jean-Pierre Siméon, j'aurais voulu parler avec vous de cette décision du choix des textes poétiques indexés à lire par nous, par un éditeur. Ça me dérange quelque part, pourtant, comment faire autrement? C'est comme si vous m'indiquiez les voies par lesquelles je vais ressentir la vie, les mots, les sentiments, une sorte, pas une manipulation, mais une directivité de mon droit libre de contempler, de savourer, de ne pas comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce pouvoir de l'éditeur?
Moi, j'entends pas mon travail d'éditeur de cette façon, évidemment, pas comme directif au sens propre du terme. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas enjoindre de lire telle ou telle chose. Je propose. L'éditeur est celui qui, comme disait René Kikadou, il est passé au guichet avant vous, c'est tout. C'est-à-dire, il a fait des lectures, il a lui éprouvé la force, la puissance d'une écriture pour lui-même d'abord. Et après, il a envie de le partager, partager ce sentiment, cette expérience qu'il a faite de lecteur. Moi, je pense que l'éditeur est celui qui propose et pas celui qui impose. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'éditeurs différents, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Chacun, comme ça, témoigne dans ses choix d'éditeurs, témoigne d'une sorte de traversée des écritures. Et chacun la traverse à un endroit différent. Donc voilà, dans mon esprit, l'éditeur, il a des responsabilités. Surtout, par exemple, moi, quand je dirige la collection Poésie Gallimard, ma responsabilité, je m'en suis expliqué il y a peu longtemps dans une longue interview pour la revue Esprit, on a la responsabilité de faire des choix qui sont autant de non-choix. C'est-à-dire que je fais 10 livres par an, bien sûr, si je choisis 10, il y en a 150 que je choisis pas. Vous voyez ? Donc, on peut me le reprocher, mais après, il y a un moment où la réalité fait qu'on m'a confié la responsabilité de faire des choix. Moi, ce que j'entends, que simplement, pour répondre encore plus clairement à votre question à travers cet exemple, que mes choix ne sont pas des choix qui sont injonctifs ou que je prétends exclusifs en disant voilà, entre ce que je vous donne à lire, c'est ça et pas autre chose. Enfin, il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres alternatives. C'est moi qui ai raison. C'est jamais dans cet esprit-là que je propose des auteurs. C'est simplement dire, voilà, dans tout ce que moi j'ai lu, avec mon expérience, ma lecture, ma passion de la poésie, j'ai trouvé cette voie-là particulièrement saisissante, riche, et je vous la propose. Je vous la propose en partage. Et on a tout à fait le droit de dire à l'éditeur, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. La première chose, d'ailleurs, c'est que c'est le droit suprême du lecteur, d'ailleurs, de ne pas acheter, après avoir ouvert un livre en librairie, de dire, c'est pas mon univers, ça me concerne pas. Donc, le pouvoir de l'éditeur est relativement, quand même, je crois, limité.
Oui, alors ce que je voulais dire, ce n'est pas que l'éditeur impose, c'est que par le fait innocent et méritoire qu'il propose des lectures, il y a quand même moins le lecteur qui va dans des chemins pas balisés, mais indexé, et peut-être que ça m'évite d'aller de façon un peu plus sauvage, et c'est peut-être pour ça que l'artiste écrit et qu'il peint pour faire une poésie, un ressenti artistique qui soit plus jaillissant de son âme personnelle. C'est peut-être pour ça l'écriture de l'artiste.
Oui, ça c'est le problème au-delà de toute édition et du partage. C'est la question que vous soulevez, c'est la question de la liberté suprême de celui qui prend la parole. Et c'est le fait, cette liberté suprême, c'est la condition et le sens même de tout geste artistique. S'il n'est pas intensément libre, complètement libre, il ne vaut pas. Et c'est-à-dire que c'est un poète ou comme un plasticien, il choisit lui-même son langage, il invente en fait son langage, à partir quand même de ce qu'il a lu, appris, compris des autres, etc. C'est quand même, l'écriture est un palimpseste, on n'écrit pas tout seul. Et le jaillissement qui nous saisit quand on est dans une création solitaire et libre, devant sa feuille, devant son... je sais pas, même si on fait des photos devant le paysage, enfin, il y a mille façons d'être artiste. Cette liberté-là, elle est indispensable, mais elle ne vaut que si, à mon sens, si elle est nourrie de ce qu'ont fait les autres avant. On est quand même au 21e siècle, il y a des milliers d'années que les hommes font de l'art. Non ? Donc on ne peut pas ignorer, quel que soit le prestige qu'on accorde à son propre désir et à sa volonté de ne pas être influencé, manipulé, déterminé par les autres, ce que je comprends bien, on ne peut pas non plus ignorer tout ce qui a été dit, écrit et fait avant nous. Voilà, moi, je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Oui, oui, non, mais je demeure, pas sur ma position, mais disons sur mon ressenti, que l'édition me donne une certaine nourriture qui va me fabriquer. Et on ne peut pas faire autrement. Et c'est, si on a le plaisir de lire de très grands auteurs, ceci demeure très bénéfique pour le lecteur. Mais il y a quand même, en amont, cette proposition directoriale qui est autorisée et qui est respectable. On sait que les éditeurs ont beaucoup lu, ont choisi avec beaucoup de réflexion et qui ne sont pas seuls à choisir la programmation des livres qu'ils éditent. Mais il y a quand même ce petit froissement en amont en disant oui, voilà, bon, il a choisi pour l'éditeur me propose, je lis, je passe sur son cheminement qu'il me et c'est... Voilà, c'est un sentiment que je referme ma parenthèse pour rejoindre Christian Bobin, que nous avons beaucoup reçu à Strasbourg, un poète extraordinairement délicat, et qui dit « Il y a une littérature qui est somptueuse, surchargée d'or et d'estime de soi, elle ne sait rien de plus beau qu'une belle phrase, écriture qui tourne devant son miroir, une mariée qui essaye sa robe. » Alors, là encore, il souligne la fatuité de celui qui veut faire des belles phrases, et la forme étoufferait le fond. Et de l'autre côté, il dit qu'il y a la littérature, la littérature des riches, c'est-à-dire de ceux qui font des belles phrases pleines de diamants, de beauté, etc., et la poésie des gueux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux lignes de parallèle qui sont très, très significatives, Christian Bobin?
Mais oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis Bobin dans cette anthologie, parce que ce qu'il dit, c'est ce que je crois profondément, et c'est ce que cette anthologie veut prouver, c'est-à-dire que on est au-delà de la littérature, que la poésie ne peut pas être réduite à la littérature. Si je dis la poésie à vivre, ça veut dire ça. On pense toujours poésie à lire. On connaît la poésie par les livres, les poèmes qu'on apprend par cœur à l'école ou qu'on lit dans les manuels scolaires pour les expliquer. Et moi, je dis, mais la poésie, ça n'est pas réductible à ça. Il est bien sûr intéressant, je suis éditeur, de faire des livres et dire de la poésie, mais je dis que, attention, la poésie ne peut pas rentrer ne peut pas se perdre dans les ors de la littérature, comme le dit très, très justement Christian Bobin. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire exactement, Christian, c'est que quand la poésie perd son origine, celle que je dis, c'est-à-dire la vie et la justesse de la vie, être juste avec sa vie, être exact avec sa vie, et le poème ne serait que l'éloge de ça ou la transmission de ça. Si elle oublie ça pour se donner à ses moyens, pour perdre la fin au profit des moyens, c'est-à-dire montrer son savoir-faire, montrer son élégance, faire du style, enfin voilà, faire du beau vers, etc., alors à ce moment-là, elle devient de la littérature et elle perd ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'elle sert à vivre d'abord. Oui, est-ce que je veux dire? Elle ne sert plus qu'elle n'est plus qu'un instrument de pour quelques-uns, un instrument de savoir ou de, je pourrais dire...
De faire valoir aussi.
De faire valoir.
Regardez, voilà, comme j'écris bien.
Mais exactement, mais ça menace tout le monde. Ça menace même les meilleurs poètes ou les meilleurs écrivains. On est toujours menacé de se laisser séduire par le moyen qu'est la langue. Par exemple, quand on a beaucoup écrit, quand on a beaucoup lu, on peut être très à l'aise. Et donc, on peut, à un moment, être tombé dans le maniérisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on oublie la nécessité première de l'écriture. Et on rentre dans un jeu de société littéraire, ce que condamne Bobin. Et je vous ai dit au début qu'il s'était mis à l'écart pour ça, pour éviter ça. Eh bien, oui, il faut toujours être vigilant. Et ça, c'est vrai aussi pour un jeune poète qui débute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la... inverser les choses. Il faut savoir que la langue n'est qu'un moyen pour autre chose. Mm-hmm. Et qu'on ne doit pas simplement se faire valoir en inventant des formes, par exemple. Ça, c'est quand on est jeune, on veut inventer des formes. On a déjà beaucoup inventé de formes. La forme peut être neuve ou autre et insolite que parce qu'on a d'abord profondément travaillé sur le fond, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez ce que disait Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Mmh. Et d'ailleurs dans le petit essai que j'ai signalé tout à l'heure, La flaque qui brille au retrait de la mer, je dis oui, le fond, je cite cette phrase de Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface, mais quand il n'y a pas de fond, vous voyez comment la forme peut être vide.
Mmh. Alors pour un petit peu aider les jeunes poète, si certains veulent inventer des manières, veulent se faire remarquer, c'est pour se faire remarquer par l'éditeur, parce que pour accrocher un intérêt quelque part, c'est compréhensible finalement. Revenir vers Aragon, ce poète visionnaire qui dit « J'appelle poésie cet envers du temps ces ténèbres aux yeux grands ouverts. Et là, c'est, on va finir peut-être avec, avec cette pensée d'Aragon. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus?
Oui, enfin, lui, Aragon, ici, il dit, je crois, ce que beaucoup de poètes disent, c'est-à-dire qu'il y a un envers du monde qui est dans ce monde, hein, qui n'est pas ailleurs, et que cet envers du monde, qui est sa profondeur, qui est sa richesse secrète et mystérieuse, on l'oublie. On l'oublie, et c'est la poésie, c'est ce qui, d'une certaine façon, ouvre sur cette immensité. Cet envers, alors peut-être c'est des ténèbres parce que c'est pas sous la lumière du jour, c'est pas la réalité objective. Alors peut-être qu'on croit que ce sont des ténèbres, mais au fond c'est des ténèbres qui, il dit aux yeux grands ouverts, c'est quand on pénètre dans cet au-delà de la réalité immédiate que on ouvre les yeux sur la réalité de la réalité, c'est-à-dire sa profonde matière, son immensité, sa diversité de formes et de couleurs et de sensations, etc. On cherche tous, au fond, à sortir de la surface immédiate des choses. On sait très bien que la vie et la réalité, ça n'est pas que ça. Et c'est la poésie qui nous ouvre ce chemin vers ces ténèbres. Mais ces ténèbres, quand on y pénètre, on y découvre d'autres clartés, d'autres lumières. Ça nous rend une autre lucidité, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on y voit mieux, au fond, parce qu'on est capable de ne pas être aveuglé par la lumière de l'immédiat. Est-ce que je me fais comprendre?
Très bien, tout à fait très bien. Alors, je vous remercie infiniment, Jean-Pierre Siméon. Je rappelle que vous avez succédé à André Velter à la direction de la collection Poésie Gallimard et que vous avez beaucoup de très prestigieux prix, notamment en 2022, le Grand Prix de Poésie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Vous venez donc de faire paraître ce collectif Paroles de poètes, dont le titre est La poésie à vivre, et ça apparaît aux éditions Gallimard Folio. Merci infiniment et au plaisir de vous lire prochainement.
Merci beaucoup à vous.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.